Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau week-end, un nouveau CQFR de week-end spécial, week-end de Pâques. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions particulières, on va découvrir ça. C'est le CQFR où Chai et moi essayons de répondre à vos questions. Théo est avec nous en ce samedi matin. Théo, je vais te laisser la parole, je vais te laisser être le maître du jeu.
Salut à tous, encore une fois, comme chaque semaine, on vous remercie pour les questions. Cette semaine encore, des questions vraiment top. Alors la semaine dernière, on avait commencé par la question du petit Timothée. Cette semaine, on commence par la question du petit Pierre-Armand Samama de Marseille, qui a une question pour Chai et Antoine. Voilà ce que nous dit Pierre-Armand. Est-ce que vous pensez que le comportement de Draymond Green, à un moment donné, est directement ou indirectement, voire inconsciemment, influencé par l'existence de son podcast? La première chose à laquelle pensent les gens quand il se fait expulser, c'est toujours vivement le podcast qu'on entend de sa version. Dans quelle mesure ce type de média peut chambouler ou perturber la carrière d'un sportif professionnel?
C'est une très bonne question. Je me la suis posée. Parce que là, avec la répétition des petites. Enfin, le retour des petits. Comment on pourrait appeler ça? Des exactions de Draymond. On l'a expulsé au bout de 4 minutes de jeu. Il y avait eu un petit accrochage avec Patty Mills au match d'avant. Et je me suis posé la question parce qu'il a la réponse. Assez rapide à chaque fois, il en fait beaucoup. Alors je suis pas abonné au Draymond Green podcast, je sais pas quelle est la fréquence, mais j'ai l'impression que c'est quand même très très fréquent et que j'ai pas envie de dire il devrait se concentrer sur le basket et machin, parce que j'adore quand on a des insights de joueurs qui sont encore en activité. JJ Redick, j'aime beaucoup, il a commencé le podcasting avant la fin de sa carrière, il le faisait déjà quand il était encore en activité. Donc j'aime bien, et en même temps je me dis non mais concentre-toi sur ton mental là, le fait de réussir à te contrôler, à pas péter des câbles contre les arbitres, à pas faire des trucs qui sont au détriment de ton équipe, parce que c'est quand même problématique. On a vu la réaction de Steph Curry, on sent que ça l'emmerde un peu quand même que Draymond ait du mal à se contrôler. Donc je suis pas loin de me dire qu'il y a une petite incidence qui prépare certes déjà son après carrière, mais que ça a peut-être une petite incidence. Ouais, j'ai l'impression qu'avec un peu moins de podcasting, ça pourrait lui bénéficier.
Franchement, j'ose sincèrement espérer que le mec il pense pas à son podcast quand il est sur le terrain et qu'il se dit pas tiens, si je me fais expulser, je vais avoir un truc à discuter dans mon podcast. Franchement, si c'est ça, c'est très très chaud. Moi, j'ose espérer que ça l'impacte pas, quoi. Ce serait ouf, t'imagines, se dire ah mais là, si je me fais taire, peut-être que je vais pouvoir en parler dans mon podcast. Enfin, je trouverais ça absolument.
Je pense pas que c'est comme ça. Je pense pas que c'est comme ça. C'est plutôt. C'est pas que ça influence ses performances dans ce sens-là, je pense. C'est plutôt est-ce qu'il perd pas trop de temps là-dessus, parce qu'il faut quand même organiser les épisodes et machin. Est-ce qu'il perd pas un peu d'influx, tu vois? Mais c'est comme, enfin, Beverly aussi.
En quoi ça change d'un mec qui va au casino pendant
Ah oui, évidemment.
Tu vois, au final, ils ont énormément de temps libre, les joueurs NBA, d'une manière ou d'une autre, qu'ils le fassent en faisant un podcast ou autre chose. La seule différence, c'est que lui, du coup, on voit ce qu'il fait pendant son temps libre. Mais ouais. Quelle est la différence entre un mec qui fout rien de ses journées en dehors du basket et Draymond Green qui fait son podcast? En quoi ça change sa concentration? À la limite, s'il parle des autres équipes, moi non plus, j'écoute pas Draymond Green. S'il parle des autres équipes et que ça crée un peu un espèce de truc, une motivation supplémentaire pour les autres équipes, ça à la limite oui, mais honnêtement, j'espère qu'il n'y a pas d'influence. Et après, c'est vrai que c'est un peu chiant. Par exemple, moi, je pense à Patrick Beverley. Ouais. J'ai pensé, parce que l'autre fois, Patrick Beverley, donc il annonce dans son podcast en exclusivité qu'il a le poignet pété, il va devoir être opéré 3 ou 4 mois. I don't know what I will do. Je ne sais pas encore ce que je vais faire et tout. Au final, il savait déjà très bien ce qu'il allait faire. Il va juste continuer à jouer, mais il a profité de son podcast pour se faire un espèce de petit effet d'annonce. Bon, après, je respecte, hein, c'est comme ils veulent. Ça les fait marrer, ça les fait kiffer, pourquoi pas. Mais j'ose honnêtement espérer qu'il n'y a pas d'influence entre le podcast de Draymond Green et Draymond Green, le joueur, quoi. Ce serait ouf. Ça serait dingue, franchement, ça serait dingue. Après, oui, il se sert de son podcast pour se justifier à chaque fois qu'il a. Voilà, il a servi de son podcast pour expliquer ça.
Ouais, sur son enfin, retour.
Pour assumer les responsabilités sur ça.
Sur le retour, il l'avait fait, hein. Il avait fait un long truc en expliquant pourquoi ça lui avait fait du bien et machin. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que ça, dans son cas précis, il se disperse parfois un peu. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà.
Après, des expulsions et des fautes techniques, il en a pris toute sa vie, quoi. Avant qu'il fasse des podcasts, il se faisait déjà jeter des matchs. Il a toujours eu ce. En fait, Draymond Green, c'est Draymond Green, quoi. La vraie question, c'est plutôt est-ce que il va faire un truc qui va coûter quelque chose à son équipe dans des moments importants, comme il l'a déjà fait par le passé. Et on peut penser qu'effectivement, si à son âge, il a toujours pas changé, bah ouais, il y aura peut-être moyen qu'à un moment, il pète un câble en plein match de playoff, qu'il se fasse suspendre. ou pendant le play-in qu'il se fasse sortir pour deux fautes techniques parce qu'il n'apprécie pas deux fautes et parce qu'il n'a pas su évoluer et passer ce cap. Mais ça, il le faisait déjà avant d'avoir un podcast, hein.
Allez, je vais rester sur cette dimension très méta, puisqu'on est un podcast qui parlons d'autres podcasts. Emmanuel nous demande justement quels sont, selon vous, les joueurs NBA ou anciens joueurs qui font les meilleurs podcasts. À l'inverse, quels sont ceux que vous trouvez les moins intéressants et quels joueurs ou anciens joueurs aimeriez-vous voir devenir podcasteurs?
Ah. Bon, on a parlé de J.J. Redick tout à l'heure et ça fait des années que je trouve qu'il fait du bon travail. Il y a un bon compromis. Alors déjà, il y a une différence entre le J.J. Redick en plateau sur ESPN où il est obligé de faire des takes un peu, ou d'adopter un ton plus véhément parce qu'il est avec Stephen A. Smith, Kendrick Perkins et compagnie. Et le J.J. Redick, le podcasteur, où quand il reçoit des invités, je le trouve à la fois bienveillant, à la fois très curieux et pédagogue dans sa manière de poser des questions. Donc, c'est très, très. Moi, c'est celui que j'écoute le plus régulièrement. Après, j'aime Paul George, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Récemment, j'aime bien les gars de Villanova à New York qui font leur. Parce que moi, je suis pas forcément, n'étant pas forcément le plus analytique de la bande et même en règle générale. Par exemple, le podcast de LeBron James avec J.J. Redick, je le trouve intéressant, mais il me touche moins que des mecs qui racontent des histoires, des anecdotes. Comme bah, Josh Hart et Jalen Brunson, par exemple, où tu vois la connivence, tu vois les anecdotes qui peuvent se raconter. Donc, c'est voilà, moi, je suis plus sensible à ça pour les podcasts actuels, en tout cas.
Ouais, moi, J.J. Redick, pareil, je pense que c'est vraiment de loin le meilleur dans cet exercice. Quand il reçoit des gars, en fait, c'est complet parce qu'il y a à la fois les anecdotes, il y a à la fois l'aspect jeu. Je trouve que c'est très pro, c'est très bien préparé. Tu sens qu'il est vraiment dedans. Et ça, j'aime beaucoup. J'aimais bien, genre ça fait longtemps que je n'écoute plus trop, mais Darius Miles et Quentin Richardson, je trouvais ça pas mal.
Ouais,
honnêtement.
Knuckleheads
C'était
via
pas mal.
Players Tribune, ouais.
C'est vraiment pas mal. Et alors, Stephen Jackson et Matt Barnes, ça dépend, mais moi j'aime beaucoup Matt Barnes en tant qu'analyste. Je trouve que c'est un très bon analyste. Du coup, ça me plaisait. Et alors, pour le coup, il y a quelques anecdotes folles. Pour ceux que j'aime moins, celui de Gilbert Arenas, j'aime pas du tout.
Non, c'est trop.
Après, j'écoute pas, je vois que des extraits, hein, mais à chaque fois, même toute l'ambiance autour du plateau, j'aime pas. Patrick Beverley, je peux pas le blairer, ça m'insupporte, mais du coup, j'écoute pas non plus. Il y en a un qui est marrant, c'est Jeff Teague, c'est quand il raconte des trucs. Alors, des fois, il faut que je réécoute 4 fois pour comprendre ce qu'il dit, mais il a souvent des anecdotes bien marrantes. Maintenant, je sais pas quel joueur particulièrement j'aimerais voir faire un podcast. Je pense
Dans
que
les
des fois on
actuels.
devine pas. Des fois,
Ouais.
j'ai l'impression qu'on devine pas, on le voit pas venir, tu vois.
Ouais.
Josh Hart, j'aurais pu me douter que ça serait marrant, tu vois. C'est genre dans l'attitude, mais je sais pas. Je sais pas trop sur ça.
Là, comme ça, faut quelqu'un qui soit déjà un tout petit peu à l'aise. Là, dans les médias, dans ces passages médias, je sais qu'il y en a qui préparent. Je pense que Haliburton sera bon, par exemple.
Ouais,
Tu sais,
Liberton.
il intervient parfois chez J.J. Redick et je dirais, il est plutôt franc, mais à la fois, il est le côté analytique, les anecdotes. Il y a un bon mélange de tout ça. Ça peut être un mec qui aura un podcast intéressant. Je pense ça m'étonnerait pas qu'il vise ça aussi. Sinon, j'y pense maintenant parce que je l'ai entendu parce qu'il était invité de Bill Simmons il y a pas longtemps. Austin Rivers est pas mal. Austin Rivers, il y a
Oui, il est
un bon
bon.
mix aussi entre de l'analytique et de l'anecdote. Il n'est pas officiellement, je sais pas s'il est officiellement retraité d'ailleurs, hein. Je sais pas s'il compte comme ça. Mais voilà, ses points de vue sont plutôt justes. Il n'hésite pas de temps en temps à faire à montrer des points de vue un peu tranchés. Mais ça reste. Moi, j'aime bien quand ça reste sobre et qu'il ne cherche pas à démonter un mec gratuitement. C'est pour ça que si tu parles de Gilbert Arenas, c'est tout ça. Tu sens qu'il y a des règlements de compte, quoi. C'est pas très. Parfois, il y a de l'aigreur par rapport à des situations passées, des règlements de compte.
Puis il y a la volonté de la haute tech aussi de temps en temps, ça me
Ouais.
gonfle un
Ah,
peu.
et encore partagé, quand il y a Paul Pierce et Kevin Garnett, parfois, je kiffe. Parce que j'aime bien leurs interactions. Ils sont marrants. Tu as l'impression qu'ils étaient comme ça déjà dans le vestiaire des Celtics. Et parfois, bon. Après, en tant qu'individu, c'est moins intéressant, je trouve. Mais ça reste regardable, hein. Je pense que de toute façon, tout le monde peut y trouver son compte. Je sais pas si tous les joueurs NBA vont avoir des podcasts à l'avenir. C'est un bon moyen de. C'est une reconversion, une plateforme qui est quand même.
C'est une mode aussi. Peut-être qu'à un moment, la mode, elle passera. Alors,
Bah,
j'espère pas pour nous, mais.
on en rigolait de manière. C'est un peu injuste parce que je vais citer un gars qui est pour rien et son podcast était pas mal, mais. Quand on a commencé à avoir des mecs comme Théo Pinson faire des podcasts, tu sais, sur leur nom propre, des gars qui sont des bouts du banc de la NBA, tu vois. Là, je me suis dit, bon, tout c'est vraiment l'effet de mode et la tendance. Et en même temps, ils sont contents d'avoir la plateforme où ils peuvent gérer, ils gèrent à la fois leur communication et ils font ce qu'eux aimeraient entendre ailleurs. Donc, ça, je trouve pas ça déconnant non plus.
Allez, j'enchaîne avec une dernière question sur cette même thématique. C'est Philippe qui nous demande, j'imagine que vous avez écouté Mind the Game, donc le tout nouveau podcast avec JJ Redick et LeBron. Et il nous demande quelle est la partie qui vous a le plus intéressé ou qu'est-ce qui vous a le plus intéressé pour l'instant.
Je veux pas être bon, je l'ai pas écouté. J'ai vu que des extraits. Ça fait je sais pas combien de jours que je me dis ah faut que je regarde et j'ai toujours pas. J'ai vu, mais il y a tellement d'extraits qui sortent en fait que j'en perds un peu le truc de me dire allez, je vais regarder.
Moi j'ai écouté le premier quasiment en entier et le deuxième j'ai juste vu les extraits. Alors moi je suis moins, c'est paradoxal parce que tout le monde réclame, il y en a beaucoup qui réclament plus d'analytics, plus d'explications de. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup de lacunes là-dedans. Mais pareil, c'est plutôt quand LeBron parle des autres joueurs. Quand il parle de, dans le premier en tout cas, quand il parle de Steph Curry, de ce qu'il a changé, de ce qu'Iverson a changé aussi, c'est un passage que j'ai bien aimé, que je trouve intéressant. C'est pas que j'avais plus d'attentes ou je m'attendais à mieux, je trouvais ça intéressant et je vais continuer d'écouter, mais c'était très très analytique et un peu pointu, presque trop pointu pour moi dans un premier temps, parce que je suis pas un tacticien du basket. Mais en même temps, c'est fascinant de les voir confronter des points de vue. De sortir l'ardoise et de dessiner des systèmes. Je trouve ça très bien et je veux juste que de voir comment ça va évoluer, si ça plaît à tout le monde déjà.
Il faudrait que je regarde, hein, mais je me demande s'ils ne doivent pas trouver un juste milieu entre justement faire ça et l'appliquer en parlant d'un mec, justement, en disant bah, tel mec, tu vois, sur ce système, on n'a jamais pu rien faire contre lui, tu vois, qu'il y a un mélange
d'un. Ils l'ont fait avec un système des Warriors, justement. Ça, c'est intéressant. Parce que pour le coup, je l'ai compris, donc c'est que ça va, c'est que c'était accessible au grand public. Il y avait plutôt une bonne alternance entre ça et ça. Mais alors, parce que tu cites comme exemple, ça me fait penser à l'émission qu'avait faite Kobe à un moment, Details, où il prenait un joueur en particulier. Je me rappelle, il y avait un épisode avec Tatum, notamment. Il décrypte vraiment une situation tactique. Alors, sur une courte. L'émission était courte. On n'était pas sur un truc aussi long que Mind the Game. Mais ça me plaisait bien parce que tu vois en situation. Tu vois un système se dérouler ou plusieurs systèmes se dérouler devant toi, plusieurs situations de jeu. Et c'est illustré par un joueur en particulier. Mais ouais, ça c'est un concept que je trouvais super. Malheureusement, que Kobe a pas pu mener à bien. Mais c'était un vrai bon concept. Ouais.
Kobe aurait été passionnant sur des podcasts. Mais...
Ah ouais.
Mais je ne sais pas s'il aurait. Pu être laissé autant la vedette à l'autre, à son invité. Je ne sais pas si c'est quelque chose que
non,
vraiment dans sa capacité, c'est un peu le problème. Il aurait fallu qu'il y ait un autre mec avec lui, mais je pense que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Parce que quand il était invité de podcast, c'était toujours, toujours must watch, quoi.
Ah ouais, incroyable. Mais je pense que ça aurait été un bon host, mais effectivement, il prend tellement de place que par la force des choses. Hein, mais comme chaque prend beaucoup de place dans son podcast aussi. Hein. Et c'est souvent, ça finit souvent en mise en valeur, quelques petits règlements de compte ici et là, c'est pas inintéressant, mais quand tu as des personnalités aussi marquantes, mais je pense que Kobe aurait fait un bon host quand même.
Ouais. C'est pour parler vite fait de Mind the Game, parce que moi j'ai pu voir les deux premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé le deuxième qui est plus technique effectivement, mais je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'en fait, si vous le regardez sur YouTube, ils mettent des images pour illustrer ce dont parlent JJ Redick et LeBron et la situation dont tu parlais, Shai. En gros, dans le deuxième épisode, c'était de savoir quelle est l'action la plus difficile à défendre en NBA et celle sur laquelle ils mettaient l'accent, c'est le split action. En gros, c'est quand Draymond Green a la balle poste bas et que Klay Thompson et Stephen Curry se font un écran l'un pour l'autre, c'est selon JJ Redick l'une des mouvements offensifs les plus durs à défendre, et je trouve que c'est assez bien expliqué les raisons.
T'as raison, c'est super intéressant parce qu'il disait même il essaie d'expliquer comment il défendait ça, enfin comment il pouvait contrer ça, et il disait il faut regarder, faut suivre le regard de Draymond et pas le ballon, parce que sinon tout le monde se fait avoir par ça, alors que voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants et qu'un mec comme LeBron rend forcément plus intéressant parce qu'il les a affrontés maintes et maintes fois.
Vous m'avez hypé, il faut que j'aille regarder vraiment alors le deuxième au moins en entier.
Ouais.
Bien joué les gars.
Allez, j'enchaîne avec un sujet tout autre. Guillaume, qui a une question concernant un joueur des Bulls, il nous dit « Kobe White fait une saison très intéressante, voire carrément enthousiasmante, ne serait-ce que par le move... » Pardon. Donc les Bulls font une saison très intéressante. Ne serait-ce pas le moment pour les Bulls de tout casser et de reconstruire autour d'une pépite? Je n'ai pas l'impression que ce soit le style de la maison, mais en tant que fan, j'en ai un peu marre de jouer la 10e place chaque année. En plus, j'adore DeRozan, je voudrais qu'il puisse jouer le titre ailleurs. Je le verrais bien aux Bucks à la place de Middleton, il serait plus fiable sur la durée. Pourquoi pas Vucevic à la place de Lopez? En gros, la question, c'est autour de Kobe White et de sa montée en puissance. Et est-ce que les Bulls ne devraient pas faire ce que Antoine Pimel réclame depuis 5 ans, c'est-à-dire tout raser et recommencer?
Bah, c'est presque trop tard maintenant.
Ouais, est-ce que c'est pas trop tard?
Non, maintenant, ils ont que des vétérans. Pendant la saison, moi-même, problème pendant la saison, j'ai dit, bah là, en fait, maintenant, c'est mort, quoi. Il y a trop de vétérans, tu dois décasser 15 mecs. Moi, je trouve qu'ils ont une bonne équipe. Après, je trouve pas que Chicago fasse une belle saison. Hein. C'est une saison décevante que tu aies autant de talent et que tu sois que 9e à l'Est. Dans cette conférence Est, Chicago peut viser beaucoup mieux. Et Kobe White, il est fort. Il est fort. C'est un candidat au MIP. Mais c'est pas une pépite autour duquel tu peux reconstruire ta franchise. Et il est justement fort parce qu'il est que dans un rôle de finisseur, en fait. Enfin, entre guillemets, que dans un rôle de finisseur dans cet effectif des Bulls. Mais c'est pas le mec autour duquel tu vas pouvoir construire toute ton attaque. Du coup, si tu casses pour garder Kobe White, ouais, c'est ça.
Ils n'ont pas cette pépite autour de laquelle tu reconstruis, en fait.
Leur manière de reconstruire, ça va être peut-être DeRozan qui est free agent et éventuellement qui part, éventuellement un transfert de Zach LaVine, parce qu'on l'oublie, mais là, ça fonctionne, mais il n'y a même pas Zach LaVine. Kobe White, il se développe aussi parce qu'il n'y a pas Zach LaVine. Alors, Ayo Dosunmu, tout ça, c'est des joueurs intéressants, mais il n'y a pas de pépite. Il n'y a pas de pépite, et vu qu'ils n'ont toujours pas tanké une seule fois sur les deux ou trois dernières années depuis que Lonzo Ball est blessé, bah, ils n'ont pas de choix de draft au placé. Donc bon, c'est va y avoir un moment moche à Chicago. Hein. Va y avoir tu passes pas de la 10e à la 4e place quand ton groupe, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, Zach LaVine ou ces joueurs-là, tu les échangeras jamais contre plus fort qu'eux, en fait, maintenant, à ce stade. Et tu ne peux même plus les échanger contre plein de picks et des jeunes. Donc, en fait, tu vas perdre de la valeur quand tu vas les transférer. Et bref, enfin, c'est dommage. Mais il y a plein de choses intéressantes à Chicago. C'est une bonne équipe. Je pense que c'est une équipe qui peut aller en play-off. Elle peut passer via le play-in. Même en étant 9e, je pense vraiment qu'elle peut aller en play-off.
Et le plafond est limité, parce qu'on a bien vu qu'avec les trois joueurs autour desquels ils ont construit le projet depuis que Karnisova est là, ensemble, c'est pas assez fort, c'est pas assez connecté. Individuellement, c'est des très bons joueurs, c'est des All-Stars, mais il n'y a pas la star dominante qui te fait gagner, quoi qu'il arrive, ne serait-ce qu'une série de playoffs. Il n'y a pas la jeune pépite autour de laquelle tu peux reconstruire si tu as envie de bazarder les vétérans. Donc, c'est pour ça que la situation n'est pas confortable. Il n'y a pas un jeune coach qui est capable de faire développer des jeunes talents non plus. Billy Donovan, je l'aime bien, mais c'est peut-être pas lorsqu'il y aura la reconstruction. Je pense que s'il y aura aussi un changement de coach, ouais, à la fin de la saison, il y aura, c'est peut-être le moment. Et le problème, c'est qu'ils sont en salle d'attente depuis bien trop longtemps, presque. Ils sont entre deux chaises. On ne sait pas s'ils ont le talent pour se qualifier, ne serait-ce que pour le play-in, mais en même temps, c'est pas assez fort. Moi, j'aimerais aussi les voir repartir de zéro, trouver le joueur autour duquel il y a un peu d'excitation, de talent, comme ils ont eu à une époque. Hein, mais je vois pas vraiment d'autres solutions, parce que tu avec ce qu'il y a là, tu peux pas, en fait.
Allez, ouais. On reste à l'Est avec une question de Régis. Récemment, on a vu qu'à la trade deadline, les Nets ont refusé un trade avec Houston pour Mikal Bridges. Quand on voit que Houston proposait Jalen Green plus tous les choix que les Nets avaient sacrifiés lors du trade d'Harden, est-ce que ce ne serait pas la plus grosse erreur de la trade deadline? Bridges est un bon joueur, mais on voit que ce n'est pas un franchise player. Donc comment vont-ils faire pour reconstruire ou l'entourer sans choix de draft? Le meilleur choix n'aurait pas été de faire le trade afin de récupérer leur... Le meilleur choix n'aurait-il pas été de faire le trade afin de récupérer leur choix de draft, même sans Jalen Green pour reconstruire plus facilement? L'avenir s'annonce long si les Nets n'arrivent pas à attirer un top joueur rapidement.
Je pense, hein, franchement, l'opportunité de récupérer tes tours de draft, là, c'est... Après, tout dépend de ce qu'on pense de Mikal Bridges. Moi, j'avais beaucoup aussi d'espoir en Bridges j'ai vu sa fin de saison, enfin la deuxième partie de saison à son arrivée aux Nets. Tu pouvais te demander légitimement, est-ce qu'on ne l'a pas vu on l'a pas un peu sous-coté, est-ce que ça pouvait pas être un numéro 1 bis? Là il m'a l'air de, même au-delà du niveau, parce que ça reste un très bon joueur, un two-way player, il y a l'atmosphère, quoi. Il a l'air déprimé, il voit tous ses potes de Villanova qui s'éclatent chez les Knicks, il voit que chez les Nets c'est un peu plan-plan, qu'il y a pas une énorme ambiance, le coaching staff a changé, là il y a un intérimaire, enfin Je pense qu'ils ne se sont pas ultra heureux, qu'ils ne donnent pas le meilleur de lui-même. Peut-être qu'à Houston, il aurait été excellent, j'en sais rien. Hein, mais mine de rien, les Rockets peuvent se féliciter et peuvent remercier Sean Marks de ne pas avoir validé le trade. Parce que là, quand on voit la dynamique de Jalen Green, la valeur de ses picks, c'est heureusement que Sean Marks n'a pas accepté, si c'est bien l'offre qui avait été faite. On en a parlé avec Antoine hier dans le CQFR, je crois. Et Antoine, tu disais à juste titre que...
Moi, je suis pas sûr. Là,
voilà,
je
vais vous dire
ça sincèrement, je suis pas sûr que c'est soit. En fait, c'est un truc qui est balancé comme ça, mais on n'a pas la genre là, tu vois, on n'est même pas sûr que ce soit tous les pics. Il y en a quand même 4 ou 5, plus Jalen Green.
Tu sais que Zach Lowe en avait parlé avant la trade deadline dans un
oui,
des derniers podcasts.
Parlé, même en février, il y avait Jake Fisher. Non, mais il y a peut-être eu quelque chose, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure, on ne sait pas jusqu'à quel stade. Tu vois, on a très peu d'infos, on ne sait même pas de quelle partie ça vient en final. Moi, je prends vraiment les rumeurs. Plus je vieillis, plus les rumeurs, je les prends avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que plus je suis la NBA de près, plus je me rends compte qu'à chaque fois, toutes ces rumeurs, il y a un jeu d'intérêt derrière quand elles sont balancées. Ouais. J'aimerais savoir à qui ça profite en fait quand tu balances une rumeur comme ça. Comme par hasard, le truc, il ressort en plein moment où les Rockets, ils cartonnent. Je veux dire, Sam Charania, s'il a l'info depuis la deadline. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est déjà sorti autour de la deadline du 4-5 février, mais là, tu le ressors pile au moment où les Rockets sont sur 9 victoires de suite, où Jalen Green cartonne, où les Nets sont nuls. Tu vois, je sais pas.
Quelqu'un qui a intérêt à ce que peut-être que Marx soit décrédibilisé ou fragilisé, parce que là le constat quand t'apprends l'information, c'est t'as Jalen Green, c'est un des meilleurs joueurs
surtout
depuis
que Mikal Bridges met pas un pied devant l'autre cette saison.
Et les pics, et la valeur décevant. Des pics aussi. Donc,
Mais après, pour ce qui est des... Donc moi, ce trade hypothétique, j'ai un peu sceptique quand même. Après, il y a peut-être eu effectivement une offre Jalen Green avec deux picks contre Miguel Bridges. Et je pense que dans ces cas-là, les Nets ont peut-être fait une erreur. Il y a certaines équipes, je pense, des fois, elles surévaluent certains joueurs en se disant « Non, mais c'est sûr qu'on aura mieux. » Et en fait, un jour, tu finis par le trader contre un premier tour, voire des fois pas de premier tour. Alors, je pense que heureusement, Bridges, il n'est pas encore si vieux. Donc, si à un moment, ils veulent le transférer, il y aura matière à le transférer. Je trouve que la saison des Nets, c'est très décevante de manière générale. Je ne sais pas trop dans quelle direction ils vont. Ils n'ont pas leur pic. Ils ont les pics d'autres équipes, mais d'autres équipes moins bien classées. Donc, les Nets vont, eux aussi, avoir un moment le cul entre deux chaises. L'avantage, c'est qu'il y a quand même certains jeunes. Les Nick Claxton, Cameron Johnson, c'est pas trop vieux. Mikal Bridges, c'est pas trop vieux. Donc, il y a moyen encore de bien figurer. Mais pareil, ne même pas être en course pour le play-in. Franchement, pour Brooklyn, je sais qu'il y a eu des blessés, etc. Mais ça reste une saison décevante. Et oui, je pense que ce trade, si la proposition a eu, je pense que c'était une erreur. Si c'est bien Green plus des pics, je pense que c'était une erreur de pas. Et je pense que ça aurait été une... Tu sais quoi ? On peut le tourner autrement. Je pense que les Rockets, c'était une erreur d'avoir voulu prendre Bridges, sauf si tu es sûr que Şengün il va vraiment devenir un multiple All-Star. Je trouve que c'est une erreur de prendre Bridges. Et je dis même pas ça parce que Jalen Green cartonne, en fait. C'est juste, tu pouvais te créer juste une équipe moyenne, et si Şengün il passe pas un cap, t'es une équipe moyenne à l'ouest, sauf qu'en plus, t'as même plus les pics, quoi. Donc bon, après, Bridges est un bon joueur, mais je pense qu'il est fait pour jouer dans une équipe encore plus forte. Moi, je milite pour que New York finisse par le faire venir et qu'on réunisse tous les mecs de Villanova, que ce soit un truc automatique, tu vois, avec les Villanova Knicks. je sais pas, Julius Randle sacrifié pour la cause, il va aller faire ses stats à Brooklyn. Mais voilà, donc sur ce trade, oui, ça peut être une. Si c'est vraiment ça dans l'état, oui, c'est peut-être la plus grosse erreur de l'intersaison. Après, au moment en février, Green, il a 40% au tir. Ah, c'est particulier, quoi.
Et parce comme on parle de choix de draft, on va parler un petit peu de draft avec une question d'Erwan qui dit « On vante le travail d'OKC à la draft et dans le trade de Shea. Pour moi, un franchise player ou un lieutenant All-Star recruté au-delà du pick 5 de draft, c'est 10% de bon travail de la cellule de recrutement, 10% de bon travail du staff pour faire progresser les joueurs et 80% de chance. Avec Shea pick 11, seulement All-Rookie Second Team envoyé par les Clippers car il jouait au même poste que Paul George, Jalen Williams pick 12 et Chet recruté avec un pick 2 alors qu'ils étaient pick 4 avant la loterie. OKC a surtout eu beaucoup, beaucoup de chance. Selon vous, quelle part de chance dans la progression d'OKC en 2 ans ?
Ah, c'est pas 80% quand même, ça. C'est énorme, 80%. C'est une équipe avec un GM qui est connu pour ça, qui est connu pour bien cibler les joueurs, qui a reconstruit plusieurs fois l'équipe à l'aide de tours de draft. Alors que la chance, évidemment, il y a plein de paramètres, les blessures, le fait qu'un joueur se sente bien dans tel ou tel contexte, il y a de la chance, mais 80%, c'est gigantesque. Donc il y a de la réussite, et les équipes qui réussissent leur reconstruction via la draft, doivent tabler sur de la réussite, mais c'est aussi celles qui prennent des risques. OKC si, a pris des risques. Sam Presti prend souvent des risques. LeBron l'a dit plusieurs fois, c'est limite le GM qui préfère parce que c'est un mec ultra audacieux. Il a le loisir de le faire, hein, la direction, le proprio le laisse faire ça. Mais non, je pense pas que la part de chance soit si élevée que ça. Ils ont ciblé, voilà, ils prennent Chet Holmgren, ils ont pris le temps, il y a eu la saison blanche, donc ils l'ont bien développé, donc le pourcentage de développement, il est important. Il ne faut pas oublier que pour Shai Gilgeous-Alexander, ils ont réussi à garder Chris Paul à l'époque une saison pour l'encadrer, et Shai dit toujours que Chris Paul l'a beaucoup aidé, donc ce n'est pas anodin non plus, c'est aussi dans le développement des joueurs. Je prends pour chaque joueur, Jalen Williams, personne ne savait qui c'était quasiment, à part vraiment les mecs qui suivaient à mort, et personne n'aurait parié sur un développement comme le sien là, à l'heure actuelle, plus tous les autres qu'on n'a pas cités. Pour moi, c'est le pourcentage le plus élevé, c'est celui de la compétence de Sam Presti et du front office, de la cellule de recrutement, du coach, Marc Degnaud. C'est du bon travail généralisé. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la chance, il faut de la chance. En NBA, évidemment qu'il faut de la chance, de la malchance chez les autres et de la chance chez toi. Mais 80%, ça me paraît quand même vraiment, vraiment exagéré.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une part de chance, bien sûr. Hein. Comme tu l'as très bien dit, dans le sport, de toute façon, il y a une part de chance. Mais comme tu as dit, je remonterai beaucoup plus la part du pourcentage de développement. Donc, s'il y a bien un pourcentage qu'il faut remonter, si à la limite, notre auditeur veut se dire, bon, bah, c'est pas que du bon travail à la draft. S'il y a autre chose derrière, c'est le développement, parce que bien drafter, c'est une chose, mais derrière, repérer des prospects, à la limite, c'est un atout. Tu peux avoir des bons scouts, un bon GM, etc. Mais il faut ensuite que tu aies un staff qui développe ces gars-là. Et il y a ça qui est très fort. Je peux te citer d'autres mecs. Hein. C'est le Thunder qui a pris Sabonis. Domantas Sabonis, absolument. Il est au-delà du top 10. C'est le Thunder. Steven Adams, c'est au-delà du top 10. C'est le Thunder. Il y a plein de gars comme ça. Donc, non seulement ils repèrent bien, ils développent bien. Non, la part de chance, pour moi, elle est beaucoup plus faible que ça. Elle n'est pas à 80%.
Allez, on enchaîne avec une question de Mika qui nous dit « L'écoute de l'excellent podcast de cette semaine sur le Heat de Miami soulève une question peut-être un peu blasphématoire sur l'avenir de cette franchise. Il est difficile de connaître les résultats à venir en saison et post-saison et en play-off, mais en quatre sorties prématurées au play-in ou au premier tour des play-offs, pensez-vous que l'aventure Butler-Miami continue obligatoirement? Faut-il poursuivre avec Butler comme franchise player en sachant tout ce qu'il apporte en play-off, ou bien prendre en compte le fait qu'il ne prend pas assez au sérieux la saison, qui n'est pas anodine dans la préparation des playoffs, ou qu'il est souvent blessé et tenter un trade pour obtenir quelque chose d'intéressant en échange, et s'appuyer sur Adebayo et les autres joueurs pour continuer à l'avenir. Attention, cette question oblige aussi à réfléchir à quelle franchise pourrait vouloir de Butler et contre quoi, ou bien n'ont-ils pas le choix ou la volonté de changer ?»
C'est peut-être une forme de paresse de ma part, mais je pars du principe qu'ils vont aller jusqu'au bout avec Butler. En fait, j'ai l'impression que c'est un joueur et une franchise qui se sont bien trouvés. Il y a des limites. Pour l'instant, ils n'ont pas été champions, mais ils ont été deux fois en finale. On peut être frustré de la saison régulière de Butler et du Heat en règle générale. J'ai l'impression quand même qu'ils vont aller jusqu'au bout avec lui, et même lui a dit qu'il ne jouerait pas pour une autre franchise. Alors, c'est la NBA, du jour au lendemain, ça peut très bien se transformer en trade, mais je sais même pas si je ferais l'effort de réfléchir à où il peut atterrir, parce que j'ai l'impression qu'il est connecté jusqu'au bout avec le Heat, en fait.
Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que Miami, de toute façon, les mecs deviennent un peu iconiques. Il y a une volonté de les garder ou de les faire, de les maintenir dans l'organisation, même si ce n'est pas pour après avoir un rôle. Mais je serais surpris que le Heat de lui-même demande à commence à transférer Butler. Pas cette année, si vraiment ça doit arriver, ça serait peut-être plus, sur sa dernière année de contrat. C'est vrai que Butler, il va prendre 48 millions et 52 millions. Ça va commencer à faire beaucoup, hein, pour un mec qui va avoir 36, 37 ans. Et qui se blesse souvent, mais je serais surpris de voir les dirigeants sacrifier un joueur qui n'est pas aussi iconique, évidemment, que Dwayne Wade, tu vois, ou des mecs comme ça, mais qui a représenté une vraie partie de l'époque. Enfin, ça sera le symbole de cette époque, et d'une époque où le Heat aura quand même fait deux finales au minimum. On verra s'ils en font une autre, mais au moins deux finales avec des belles campagnes de play-off. Ils n'ont pas forcément gagné, mais il y a eu quelque chose. Le terme Heat culture, il n'a jamais été aussi fort que depuis que Butler il est là. Je serais très surpris que Miami prenne la décision de le transférer. Si ça doit arriver dans 2 ans, je pense que ça viendrait avec un accord du gars, genre en mode bon, bah là, c'est ma dernière. Je ne pense pas que Butler va jouer très, très, très tard en NBA. Je vous avoue. Je ne serais pas surpris qu'au bout d'un moment, le corps se dise bon, allez, on arrête. On verra, hein, d'ailleurs, peut-être que je me trompe. Mais voilà, peut-être que d'ici 2-3 ans, s'il n'a toujours pas eu de bague, peut-être qu'il demandera, lui, effectivement, mais là, ce sera différent. Là, ça pourrait être n'importe quelle équipe qui est ambitieuse à ce moment-là, mais je serais
Ouais.
surpris quand même.
S'il y a une si on devait réfléchir à une équipe dans laquelle on verrait Butler à part Miami, moi je me connais, j'aime bien les retours à la maison et peut-être au Texas.
Bah, Dallas, moi je préfère Dallas que Houston. Je sais qu'il est de Houston,
Ouais.
mais
Ouais.
quand Théo lisait la question, là, à la fin de la, j'ai commencé, je me suis dit Dallas, s'il y a un endroit avec Luka et Kyrie, tu vois, être un peu la troisième lame.
C'est fort. C'est plutôt bien.
Mais ça n'arriverait pas l'année, je pense, que même si là le Heat se fait sortir même au play-in, je ne pense pas qu'ils vont transférer
Et
Butler.
Houston, ça accélérerait la timeline des Rockets, mais non, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal à le voir ailleurs qu'à Miami.
Ouais, moi aussi.
Allez, vous avez parlé des Mavs, donc je vais enchaîner avec une question qui les mentionne. Benjamin qui nous demande plutôt quelles équipes sont le plus susceptibles d'exploser en cas de contre-performance en playoff. Les Suns, les Bucks, les Mavs. J'ai l'impression que beaucoup d'équipes revendiquent jouer le titre, mais qu'à la fin, il n'y aura qu'un seul champion.
C'est pas simple hein, entre ces trois-là. Donc, en Suns, Mavs, Bucks, enfin les Bucks, ils peuvent exploser ce qu'ils veulent, mais ils ont un coach sous contrat pour je sais pas combien de milliers d'années.
Ça peut être une autre team, hein. Je réfléchis moi en même
Ouais,
temps.
parce qu'après, pour chacune des équipes, Yanis a déjà montré qu'il pouvait mettre la pression pour demander à ce que l'équipe soit améliorée, à faire planer une menace de départ. Donc, c'est pas impensable, les
J'irai
Bucks.
plus bas que ça, moi. Moi, j'irai plus bas que ça. J'irai sur Clippers, Warriors. Clippers, tu vois, Clippers, si ça marche pas encore une fois, tu vois, s'il y a une grosse désillusion au premier tour, est-ce qu'il y a peut-être volonté de se dire, allez, on redémarre, c'est plus possible. Et encore, hein, ce serait... tout redémarrer, c'est compliqué. Tu as trois superstars. Comment tu fais trois trades de superstars? Je serais surpris quand même. Kawhi, en plus, a re-signé, non?
Kawhi a
Il a
prolongé, ouais.
Kawhi a
Donc
prolongé. Donc...
clairement, il est là, il sera là pour la
C'est
nouvelle
peut-être...
salle.
Les Warriors, je serais aussi surpris qu'il y ait le transfert d'un cadre. Je pense que les Warriors vont aller jusqu'au bout avec Klay et Green. Voilà, c'est après, il y a une possibilité, s'ils ratent les playoffs, de se dire, ah bah tiens, allez, on se réinvente complètement autour de Curry. Mais pareil, t'as des mecs, faut pas oublier l'aspect humain, quoi. C'est des mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Bah, tu vas jusqu'au bout avec, en fait. Des fois, c'est, bon, bah, c'est ça notre équipe et on fait avec. Les Suns, il y aura forcément un ajustement, mais. Comment exploser une équipe qui a déjà été
Comment tu fais, ouais.
explosée,
Bah
elle
ouais.
ne sait même pas encore une équipe. On ne peut pas exploser quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Les Bucks, il y aura du changement, je pense, effectivement, s'ils ne sont pas champions. Mais ouais, les Bucks, il y aura peut-être du changement. Les Middleton, les Brook Lopez,
Moi,
c'était peut-être
j'ai
le
une autre
transfert de
équipe.
Giroud était peut-être déjà la première porte
Ouais.
ouverte, mais.
Moi, j'ai une autre équipe en tête. S'il y a fiasco, hein. Mais admettons, ça se produira pas. Mais si Boston
Boston,
se
ouais.
fait sortir au premier tour. Ils ont Jaylen Brown qui a le contrat. Non, mais ça peut arriver au premier ou même deuxième, c'est un échec.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est une bonne
Jaylen Brown, il
question.
a le contrat le plus cher de la ligue. Et ça ne voudra pas dire que c'est de sa faute, hein, je ne dis pas ça, mais si tu as un levier d'ajustement, tu as
Ça
ces
dépend
joueurs-là,
comment.
quoi.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est intéressant. Hein. Ça dépend comment ils perdent, peut-être. Ça
Aussi.
dépend comment ils perdent et, genre, qu'est-ce qu'ils identifient comme le facteur d'échec. Et c'est vrai que là, pour Boston, t'es dans une situation, en fait, où
J'ai tout cuit là.
tu peux pas avoir autre chose que le titre à la fin de l'année, quoi.
Enfin, ou s'ils vont en
J'ai
finale,
l'impression
non,
même
si
finale
finale,
NBA,
quand même.
j'ai l'impression même finale NBA, c'est un échec en fait.
Ils seront déçus, non, mais ils seront très déçus et on dira mince, ils avaient la place pour gagner, mais tu vois, je pense là, il y a deux niveaux et ils vont pas. S'ils perdent en finale, ils
Ouais.
vont se dire mince, bon, bah, ça n'a encore pas marché, mais on a des joueurs qui sont encore relativement jeunes, ils vont pas toucher, je les vois pas tout péter.
Ouais,
Peut-être
mais
y réfléchir, tu vois, mais pas tout
ouais.
péter.
Ouais, peut-être pas tout péter, mais par contre, si tu repères encore cette année, c'est comme disaient Jrue Redick et Jamal Crawford pour les Clippers, c'est qu'en fait, à un moment, quand tu perds. Tu gagnes pas, tu passes pas le dernier cap. À un moment, ça fait partie de toi, quoi. Tu es en mode, ah, mais en fait, nous, ça marche. Enfin, tu n'arrives plus à y croire. J'ai l'impression que si là, les Celtics, ils perdent en finale NBA,
Ouais, non, mais il y a une
comment
immense
se
pression.
relever de ça, tu vois, c'est compliqué. Je dis pas qu'ils vont casser, tu as raison, hein, ils casseraient peut-être pas forcément, mais je suis pas sûr que.
Il casserait le coach, par contre, je pense.
Ah oui,
Parce
bah oui,
que
bon.
c'était
Ah
déjà
bah
chaud pour
Madula,
lui.
s'il n'y a
C'était
pas
déjà chaud
titre,
pour lui.
c'est sûr qu'il
Voilà.
saute. Je crois que quel que
Brad
soit le
Stevens a
stade,
quand
il
même
saute.
lui a renouvelé sa confiance alors que l'année dernière, enfin, les articles, ils étaient fous. Je sais plus, je me souviens plus de l'article, mais enfin de qui avait écrit cet article, mais qui expliquait comment il avait complètement perdu les joueurs et que c'était les joueurs eux-mêmes, motivés par leur fente, qui avaient fait des réunions entre eux, qui avaient fait une partie de golf avant les matchs décisifs à la fin pour se ressouder. Enfin, et visiblement, il avait perdu le vestiaire, ils n'étaient pas d'accord avec son approche. Donc, moi, je dirais plus les Celtics que les équipes que c'est Benjamin, je crois, qui nous a mentionné, parce que c'est déjà des équipes qui ont pris des risques, qui ont remodelé leurs effectifs, ils ont des stars qui sont sous contrat. Bon, je vois pas ces équipes-là, les équipes de l'Ouest mentionnées, exploser en tout cas.
Et vous avez mentionné les Clippers, donc j'enchaîne avec une question d'Azedine qui compare les Clippers et les Suns. Il nous dit en préambule, je voulais dire que je n'avais jamais cru aux Clippers et qu'ils n'ont à mon avis aucune chance en playoff de faire quelque chose. Les Suns, j'ai encore un doute car tout dépend à mon avis de l'attitude de Bradley Beal dans le roster. Si on parle des Clippers, on a une équipe avec un meneur qui, je pense, joue moins vite que Bob Cousy et Jerry West à leur époque et défend quasi aussi bien qu'Austin Reeves. Penser en 2024 que c'est possible de gagner avec James Harden en meneur starter, cela relève de la faute professionnelle. Il y a ensuite un podcasteur qui n'a plus fait un match de playoff de sérieux depuis les Pacers. À l'époque, Lance Stephenson jouait encore au basket. Et enfin, au milieu de tout ça, on a ce pauvre Kawhi Leonard qui se demande ce qu'il fout là dans ce joyeux bordel. Concernant les Suns, je voudrais quand même qu'on m'explique comment tu veux jouer au basket avec Bradley Beal en meneur. Le mec a d'énormes qualités de scoreur, mais il a autant de chances de réussir à jouer meneur que moi de gravir l'Everest en tong. Pour moi, les Suns avaient juste à prendre un meneur organisateur et défenseur de bon niveau pour avoir une vraie chance de performer en playoff. Cela n'a pas été fait. Pour moi, ces deux équipes souffrent du même problème. Elles pensent qu'en empilant les stars, elles peuvent gagner. Je me demande parfois si ces équipes ont un GM qui a une influence. D'ailleurs, en voyant le travail de Danny Ainge aux Celtics, je me demande comment une de ces deux franchises ne s'est pas mise sur le dossier plutôt que de le voir se perdre chez les Mormons. Mes questions sont les suivantes. Laquelle de ces deux franchises réussira à gagner un titre en premier? Quels sont les éventuels ajustements à effectuer?
C'est intéressant le côté de l'influence des GM ou pas sur le truc, parce que là, on a deux propriétaires qui sont très présents, qui, je pense, sont dans la salle de réunion quand il y a des décisions sportives qui sont prises. Matij Bia, il est arrivé, et le lendemain, Kevin Durant signait, et quelques semaines, mois après, il a fait Bradley Beal à la première occasion qu'il a pu. Donc, je suis assez d'accord. Il y a une approche qui est de l'ordre de l'empilage de stars, et je suis pas sûr que ça fonctionne, que ça puisse fonctionner quand tu détruis l'équilibre qu'il y a autour. Je serais pas complètement définitif sur Bradley Beal parce qu'il a beaucoup été blessé. Quand il a joué, je l'ai trouvé plutôt bien. J'ai tendance à me dire que si c'est lui ton troisième meilleur joueur, c'est plutôt pas mal quand même. Et que ça va dépendre plutôt de ce qu'il y a autour et de comment ça. Sauf qu'on ne les a pas vraiment vus enchaîner les matchs ensemble et que ça va poser problème à un moment. Et pour en revenir à la question, qui je vois gagner en premier, j'ai l'impression que les. Est-ce que les Clippers seraient pas plus proches d'un titre pour moi que les Suns? Là, entre les deux équipes, j'ai plus confiance dans les Clippers que j'ai vu réussir à bien enchaîner sur une période, même s'ils sont dans une mauvaise passe, que les Suns qui sont vraiment totalement irréguliers pour moi d'une semaine à l'autre. Voilà.
J'ai beaucoup de mal avec les Suns, mais cette équipe, par exemple, je crois que c'était dans le CQFR de vendredi matin, je disais que ça va être un cauchemar de faire d'éventuels pronostics. Les Suns, ils vont être très, très, très difficiles à jouer en playoff, je pense. En fait, non, ils vont être d'abord ultra difficiles à pronostiquer en playoff. Par exemple, si une série, si Phoenix termine 7e et joue au OKC qui est 2e, tu me mets là devant la feuille et tu me dis, bah, faut que tu nous dises qui va gagner cette série. Je suis tenté de mettre OKC en 6, tu vois. Je suis tenté de me dire, ah, le Thunder, quand même, c'était solide cette saison. Mais c'est très dur, c'est très dur. Les Suns, ils sont vrais. Je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils sont vraiment forts, parce qu'ils sont pas vraiment forts. Mais ils ont un potentiel pour être vraiment forts qui les rend vraiment imprévisibles. En fait, si cette équipe, je trouve que cette équipe, le problème, c'est qu'elle, ça a pas cliqué. Mais si pour X ou Y raison, ça se met à cliquer d'un coup en playoff, alors ce qui est une probabilité un peu étrange de se dire, bah, ah non, mais attends, c'est un grand si, tu vois, de se dire d'un coup ça clique. Mais si ça clique, en fait, ils sont capables de battre vraiment n'importe qui, et peut-être même les Nuggets.
Je pense pas.
Et peut-être même les Nuggets. Si ça clique, je pense qu'ils. Je te dis pas qu'ils vont battre les Nuggets, s'il y avait Denver, mais c'est l'équipe. J'écoute pas Jokic et les Nuggets qui nous ont fait croire que c'était les Timberwolves qui les avaient plus gênés. Hein. L'équipe qui a le plus dérangé Denver en playoff, j'ai quand même regardé les playoffs. Excuse-moi, c'était Phoenix. Hein. Il n'y a pas photo. J'ai regardé la série contre Minnesota, j'ai regardé la série contre Phoenix. Oui. C'est Phoenix qui a fait le plus transpirer Denver et de loin. Et cette série, elle est plus serrée qu'il n'y paraît. Les Nuggets gagnent en 6, mais elle est plutôt serrée. Après, évidemment, c'est pas la même équipe que Phoenix. Pour moi, les Suns ont fait une erreur cette jour. Ils ont fait venir Bradley Beal. Je pense que c'était le coup de trop, en fait. Il y avait, pour moi, Booker Durant, c'était. parfait.
C'était énorme, hein, que l'année dernière, l'échantillon était petit, mais c'est très fort.
Fallait vraiment plutôt construire autour de ça. Bon, Ayton, apparemment, il y avait un truc. Pourquoi pas, mais je reste toujours sur mon trade. Moi, j'aimais bien l'idée. Pour moi, il y avait une équipe des Suns, c'était potentiellement jouable. C'était de faire Van Fleet, Booker, Durant, Miles Turner.
Miles Turner.
TJ McConnell en sortie de banc. Après, c'est du domaine de l'imaginaire et de l'hypothétique, mais il y avait moyen de
faire. Non, mais c'était des offres réalistes qui étaient évoquées à l'époque. Donc,
et oui, Phoenix aurait eu une équipe, pour moi, monstrueuse, en fait. Si, tu vois, Azenim parlait de meneur, défenseur, gestionnaire, mais t'as Van Fleet avec Booker et McConnell en sortie de banc. Et à côté de ça, ils pouvaient toujours faire les mecs, tous les gars qu'ils ont signés autour, tu vois. Et je pense même, bon, après Jock Landale, il a pris quand même une belle somme à Houston, mais il y avait moyen vraiment d'avoir une équipe correcte. Mais je pense que les Suns, honnêtement, il y a un énorme plafond, en fait, si tu veux, mais ils sont encore très loin de ce plafond, tu vois. C'est l'iceberg, mais inversé. Tu sais, quand tu vois le petit truc et qu'il y a tout en dessous, bah là, c'est inversé, tu vois. Tu vois que le petit truc, mais tu sais que ça peut monter très, très haut. Maintenant, je pense qu'il y a très peu de chances que ça monte très très haut sur cette campagne de play-off. Par contre, eux, avec des ajustements, ils peuvent être candidats dès l'an prochain. Et si vraiment dans le futur, il fallait imaginer une de ces deux équipes gagner un titre, je pense que Phoenix serait un petit peu mieux placé parce qu'ils sont plus jeunes et que Booker est encore dans son prime, tu vois. J'ai l'impression que les Clippers, toutes leurs stars, elles sont pas prime ou Kawhi à la fin de son prime, quoi.
Mais la différence, quand même, j'ajuste vraiment sur cette saison-là, c'est que au moment où les Clippers ont été vraiment bien, il y a un moment où je me suis dit, effectivement, ils peuvent vraiment battre n'importe qui sur une série. Okay, si tout va bien, c'est très hypothétique. Je me suis dit, Kawhi, Paul George, bon, Harden joue très bien en ce moment, le banc, je l'aime bien. À un moment, je me suis dit, effectivement, à leur top, ces joueurs-là peuvent battre n'importe qui, peut-être même les Nuggets, même si ça restait mon favori. Les Suns, sur la plupart des matchs, je me dis, KD est incroyable, Booker, et puis en playoff, il est capable de dosser son niveau de jeu. Mais en tant qu'équipe, je me suis jamais dit, c'est une équipe qui peut battre toutes les autres de la conférence. Je me le suis pas encore dit. Par contre, ça ne va pas en contradiction avec ce que tu dis sur le plafond de l'équipe. On parle de Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, qui a déjà été un meilleur marqueur dans cette ligue. Les joueurs autour ne sont pas des peintres, mais je n'aime pas spécialement l'ensemble. Donc, je vais rester sur les Clippers. Dans les deux cas, c'est un scénario qui me paraît de moins en moins probable parce qu'il y a des équipes qui leur sont supérieures. Mais je préfère les Clippers, en fait.
Ouais, non, mais pour cette saison, je te comprends. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois ce que tu veux dire. Je suis très intrigué par le visage qu'on va avoir des Suns en playoff. Celui des Clippers aussi, d'ailleurs. C'est vraiment des équipes mystérieuses, quoi. Et je pense qu'il n'y a aucune des deux qui sera championne cette année, tu vois. Mais c'est... Je sais pas. Des équipes qui, sur 3 semaines, pardon, peuvent être d'un coup injouables. Et ça serait vraiment surprenant, tu vois, mais... À voir.
On va parler d'une équipe qui sera à coup sûr pas championne cette année. C'est Antoine qui nous pose une question sur le Jazz. Bon, je sais que ce n'est pas une équipe très suivie, mais je voulais avoir votre avis sur les 3 rookies du Jazz, Keyonte George, Taylor Hendricks et Bryce Sensabo. Est-ce que, d'après vous, ils peuvent représenter le futur du Jazz? Personnellement, en tant que fan d'Utah, j'ai quelques doutes sur Bryce. Il est censé avoir un gros potentiel offensif, mais pour l'instant, ses pourcentages me font un peu peur. Je veux lui laisser le temps pour s'adapter, mais je n'y crois pas trop pour l'instant.
C'est marrant. Il y a aucun des 3 joueurs en question qui sont des. Aucun d'entre eux peut être le joueur autour duquel tu reconstruis. Mais Keyonte George, je trouve vraiment très bon. Sensabo, et c'est un joueur qui n'a pas été pris très haut, donc c'est un joueur de rotation qui est. C'est pareil, tu vas pas reconstruire ton équipe autour de lui, mais il est intéressant. J'aime bien les jeunes qu'ils ont pris, les jeunes qu'ils ont draftés. Je trouve que Danny Ainge fait du bon travail, que Will Hardy en développement, c'est bon. On voit ce qu'il a fait l'année dernière avec certains des joueurs de l'effectif. Et même si le Jazz, naturellement, n'a pas une inclinaison très forte pour regarder leurs matchs et suivre leurs rencontres, surtout quand depuis qu'ils sont assez éloignés du play-in, je trouve quand même que ça travaille plutôt bien. Taylor Hendricks, si vous vous souvenez, j'en avais parlé avant sa draft. Pour moi, c'était un style potentiel. Et lui, je trouve qu'il a vraiment un gros potentiel aussi. Ils ont plein de bons joueurs qui peuvent prendre une valeur supérieure et une dimension supérieure s'ils trouvent le gars autour duquel tu peux axer ton projet. Et je pense qu'ils ne l'ont pas forcément, même si Markkanen est un bon joueur aussi, c'est un joueur de calibre All-Star. Ils n'ont pas le joueur autour qui permet à ces autres éléments qu'il a évoqués là de gagner en valeur, en importance, quoi, je pense.
Ouais, moi je te rejoins aussi, il y en a aucun des trois qui peut être le... Tout comme je pensais la même chose pour Walker Kessler d'ailleurs l'an dernier, hein, quand on commençait à s'enflammer sur Walker Kessler, il n'y en a aucun qui a ce profil un peu star franchise player. Keyontae George a un profil de scoreur, à la limite, peut-être que ça deviendra un gros scoreur, mais je pense qu'aucun de ces gars-là est la pépite autour de laquelle tu vas créer ta franchise.
Il n'y a pas encore.
Maintenant, c'est bien de les avoir draftés et ça montre des choses et ça se développe petit à petit. De toute façon, pour l'instant, leur star, c'est Markkanen. On sait de façon, on ne sait pas trop quelle direction ils vont prendre. Utah, à tout moment, ça peut dégager Markkanen pour un pic.
Je pense que ça va tanker. L'année prochaine, ça va tanker.
Pour
mais
Cooper
méchant,
Flag.
Pour Cooper Flag.
Il y a peut-être moyen que Markkanen soit transféré cet été.
Je pense. Je vois pas d'autres. Je les vois pas restagner une année comme ça. Et il va falloir tanker fort pour avoir des chances d'avoir Cooper Flag. À mon avis, ils vont y aller à mort.
Je pense qu'il y a de la patience. De toute façon, il n'y a pas de pression du front. Il n'y a pas de pression de l'équipe des propriétaires. Le Jazz a le temps, quoi. Des fois, tu sais que tu dois rester 3-4 ans dans un peu dans la misère. De toute façon, l'an dernier, c'était même pas complètement un échec parce que, enfin, pour moi, c'était un échec dans le sens où ils se sont
mais oui, ils ont été
mis
trop forts.
En dehors eux-mêmes, dehors de la course de Wembanyama. Mais tu vois, en termes de, ça faisait pas tanking. Là, même cette année, bon, ça fait pas complètement tanking. Sauf que donc, on n'a pas l'impression qu'ils ont été dans les bas-fonds, tu vois, comme Détroit ou Houston avant que là ça remonte. Ouais. Tu vois, où tu te dis, ah, mais non, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Par contre, effectivement, c'est des saisons médiocres. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, il y aura un peu ce truc de se dire, ils se foutent pas un peu de nous, ça fait 5 ans qu'ils sont nuls, tu vois. Mais oui, il faut qu'ils aient au moins cette opportunité à un moment de drafter très haut. C'est une équipe qui a jamais eu le premier choix de draft.
Bah, ils l'attendent là, hein, je pense.
Oui, je...
Je suis prêt à parler l'année prochaine qu'il n'y a plus Markkanen, il n'y a peut-être plus John Collins.
Il n'y aura plus Clarkson.
Il n'y aura plus, peut-être plus Clarkson. Et ce n'est pas grave, parce que ça va être intéressant de voir ces jeunes joueurs-là dont on parlait être encore plus responsabilisés. Keyontae George, c'est un gros scoreur, tu as raison. Moi, j'ai une faiblesse pour Taylor Hendricks. Je pense vraiment qu'il va devenir fort. Sensabo est un peu moins épais, mais c'est aussi quand même un bon joueur. Je pense qu'il y a un projet Cooper Flag derrière la tête qui est assez évident.
Allez, on reste sur les jeunes avec une question de Pierrick qui concerne les sophomores. La classe de draft 2022 semblait pas mal sur le papier en année 1, mais je reste un peu sur ma faim pour l'année 2. J'ai quelques catégories à vous soumettre. Donc, il les a classées par catégorie. Dans les tops, Paolo Banchero, Jalen Williams, Peyton Watson. Déception, Jabari Smith, Jeremy Sohan, Nikola Jovic, Oche Agbaji, Ousmane Dieng, Mark Williams, Christian Brown.
Ça, c'est en déception
en... Non, ouais, c'est en... Oui, déception.
Déception. Ouais, là, je suis pas d'accord.
Okay, ouais, je suis pas d'accord non plus, mais ouais.
Alors, Mifig Miraisin, Keegan Murray, Jalen Duren, Sharp, Mathurin. Du temps de jeu, s'il vous plaît, Dyson Daniels, Walker Kessler. All-Star de G-League, Johnny Davis, Marjon Beauchamp, Patrick Baldwin, victoire des chauves pour Théo et Shai. On n'est pas chaud, hein, mais on prend quand même. Ty Washington, le gars sûr d'Antoine Pimel, Wendell Moore et Dallen Derry. Je pars en voyage à Atlanta pour enquêter sur la disparition d'AJ Griffin. Il passe de rookie en double buzzer beater avec du temps de jeu au bout de 3 semaines de compétition à mon daron a plus de buzz que moi.
Très bon.
Moi, je suis pas d'accord avec tout. Avec la, tout la... Ouais, moi, sur, je vais reprendre. Là, j'ai la liste sous les yeux. Je me suis mis là dans ce qu'il a dit. Alors, non, mais si on prend vite fait. On va pas faire toute la draft. Hein, mais je vais dire ce que je pense. Banchero, satisfaction. Holmgren, satisfaction. Jabari Smith junior
comme un rookie du coup.
Oui, c'est vrai. Il est pas dans les sophomores, on va dire, mais bon, admettons. Et il a mis Jabari Smith junior dans les déceptions, je suis pas d'accord.
J'aurais mis en Mifig mes raisins moi.
Mifig mes raisins, mais moi plutôt pente ascendante parce que j'aime bien le joueur qu'il est en train de devenir. Je suis pas d'accord sur Keegan Murray, Mifig mes raisins, pour moi c'est une satisfaction. Ça veut...
Ah là, je suis pas d'accord avec toi.
Il y a peut-être il plafonne cette saison, peut-être un peu, mais ce qu'il a montré déjà sur l'année dernière, je pense que ça va devenir un super joueur.
Oui, mais du coup, tu cherches à voir la progression entre l'année 1 et l'année 2. Donc, je capte pourquoi. Moi, je le mets en Mifig Miraisin aussi.
Ok, va pour Mifig Miraisin.
On s'attendait à ce qu'il soit une star, et c'est pas une star. Et je suis même pas sûr que ça devienne une star un jour. Mais après, j'aime bien Keegan Murray aussi. Hein. Mais ça va avec les Kings. Pour moi, c'est représentatif des Kings. Tu vois, t'étais troisième, bah derrière, si tu te retrouves à rater les playoffs, excuse-moi, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas.
Ouais. Après, si on continue en 5, Jaden Ivey. Alors, c'était déception jusqu'à et ça va mieux. Mifig Miraisin, je dirais.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mathurin est fin de saison, là, on est d'accord, il ne rejoue plus.
Mathurin, c'était déjà un peu une déception sur la fin de la saison dernière, en fait. De toute
il
façon.
Avait commencé fort, mais ouais. Chez Dunn Sharp, c'est très prometteur, mais c'est.
Sharp et Williams, ils ont été tellement blessés que.
Bah ouais.
Tu peux même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut, comment on peut. Durant, pour moi, j'aurais mis dans les positifs. J'aurais pas mis en
Ouais.
épigme raisin, perso.
Durant, c'est positif. Hein. Ce qu'il a montré dans un contexte un peu morbide, franchement, c'est fort.
Il n'était pas prêt pour morbide, pardon,
Ah ouais, bah, les Pistons, ça a été
Ah, les
morbide. Bah,
Pistons.
ils ont la pire série de défaites de l'histoire de la NBA, les gars. C'est morbide, quoi. Mais
Mais il y
Durant,
a
je le
du
mets dans la
talent dans cette.
satisfaction.
Il y a
Ouais, il
du
y a du
talent dans
talent.
cette draft. Hein. Ivy, Sharp, Murray, c'est des mecs encore et encore un cap
Il y
très
a des mecs
clairement
qui
à
vont devenir
passer.
forts, il y a des mecs qui vont progresser
Ouais.
encore après selon les opportunités. Dyson Daniels, je pense qu'il y a de quoi faire. Sohan aussi.
Et Jovic, je l'aurais même pas mis. C'était dans quoi? C'était dans Déception, Jovic?
Jovic, il est dans les déceptions, ouais.
Oh, c'est
Tous les
aussi mes
meilleurs
raisins.
5 du Heat, c'est quand il y a Jovic sur le terrain en net rating. Après, il a pas évolué plus que ça, mais je sais pas si j'aurais mis en déception quoi.
Il a
Je
du temps de jeu
pense
chez le
pas, j'aurais dit
finaliste.
mi
Ouais.
figue mi
Mi-fig,
raisin.
mi-raisin.
Ouais, moi aussi mi figue mi raisin, tu vois, quelque chose comme ça.
Par contre, je suis complètement d'accord et je veux bien qu'il enquête sur AJ Griffin, la
AJ
disparition là.
Griffin, c'est ouf.
Il a cité Mark Williams, mais il a été blessé, mais il
Il
faisait
a
des choses
joué, je sais
bien.
pas, 20 matchs, Mark Williams.
Agbadji, il a été tradé en cours de route, mais ce qu'il avait fait était pas mal. Bon, il y a le cas Ousmane Dieng. C'est un peu
Ça,
décevant.
c'est décevant. Hein.
Mais d'un côté, c'est aussi lié au fait qu'il joue dans une des meilleures équipes de la ligue et que
Ouais,
les
mais c'est
places sont très
décevant
chères.
qu'il n'ait pas réussi
Ouais.
à sympa. Enfin, il est sophomore, Ousmane Dieng? Ouais, c'est peut-être un poil tôt, en fait. C'est plus l'année 3 où tu te dis, c'est vrai que là, bon. Mais on aurait bien voulu l'avoir quand même, tu vois, le voir. On pensait que c'était possible. Moi, je pensais vraiment que c'était jouable.
Après, il y a aussi des joueurs dedans enfin, il y a personne, il y a très peu de joueurs à condamner, entre guillemets. Il y en a qui auront plus d'opportunités, qui vont être tradés. C'est une belle cuvée, hein, honnêtement.
Ouais, ça va, moi je trouve aussi que c'est solide.
Ouais.
L'année 2 est souvent dure, hein,
C'est dur, ouais.
pour les jeunes joueurs. C'est pour ça que je trouve que Banchero et Jalen Williams sont à ce point impressionnants, c'est qu'ils sont déjà ils ont poursuivi sur leur trajectoire.
Un Banchero, c'est vraiment solide.
C'est fort.
Est-ce que
Allez,
c'est fort?
dernière question avant qu'on passe au quiz. C'est Tech qui nous pose un what if. J'étais en train de péniblement arriver au bout de la série What If ce week-end et ça m'a donné une petite question à thème à vous proposer. Quel est votre joueur et ou votre moment NBA What If, celui où vous vous êtes dit si seulement et tout aurait été différent? Pour moi, c'est très simple. Je me suis mis sérieusement au basket en voyant jouer Penny Hardaway. Il est mon joueur What If. Je pense que son genou nous a privés d'un postulant au débat du GOAT. Oui, carrément. Forcément, mon moment What If est plus ou moins associé. Il s'agit du 0 sur 4 de Nick Anderson durant la finale de 1995. Je pense que ça change toute l'histoire du Magic, celle de Penny et Shaq.
Je vous préviens, c'est pas moi qui ai envoyé ce message sous un alias, hein. Mais je peux que partager. Alors j'étais plus jeune, mais Penny, quel regret de ne pas l'avoir vu. Je ne sais pas s'il aurait pu être dans la discussion du GOAT, mais il aurait pu ça changer la narration et le destin de la conférence Est, peut-être même la deuxième partie de la carrière de Michael Jordan, enfin, après son retour. Ça changeait énormément de trucs dans les What If, c'est assez immense. Après là, c'est pour une blessure. Il y a aussi après le les, alors, je peux prendre un exemple récent, mais tu prends le trio des Nets, Kyrie, KD, Harden. Sur le papier, je suis très intrigué parce que le peu de matchs qu'ils ont joué ensemble, ils étaient injouables. Ça, c'est plus des atomes crochus, des situations. Mais sinon, oui, si on remonte, moi, c'est pénible pour les joueurs, pour les What If. Je pense qu'Antoine va aller sur un autre blessé
Oui,
malencontreux, peut-être.
j'en ai deux. Alors, j'ai un pour un blessé, c'est Derrick
Ouais.
Rose, évidemment. Très gros fan des Bulls de Derrick Rose. C'est dur parce que c'est vrai que le match-up contre Miami, il n'est pas le plus simple, mais je pense que Chicago aurait pu au moins une fois battre Miami à l'Est à un moment. Sur une des, je sais pas, entre 2011 et 2014, il y a au moins une fois. Tu vois, finalement, personne n'a sorti le Heat avant les finales. Je pense que Chicago était l'équipe qui aurait pu le faire. Et mon autre what if, il est beaucoup plus abstrait, mais j'en ai déjà parlé. Je pense très sincèrement, et je mourrais sans doute avec cette idée, que Kevin Durant aurait pu et même aurait dû être le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que niveau du talent, on ne se rend pas compte, mais je pense vraiment que c'est le mec le plus doué au basket que j'ai vu moi perso dans ma vie, plus que Stephen Curry, et je dirais même plus que LeBron James, très sincèrement, même si c'est différent, parce que LeBron James, ça. Un autre profil, mais voilà, je pense que Kevin Durant, peut-être avec un autre mental, Donc, c'est un what if très différent. Hein. Ce n'est pas une histoire de corde s'il avait eu un autre genou. Je pense qu'avec une autre mentalité, Kevin Durant aurait dû être le mec qui domine cette ligue comme jamais on a vu un mec dominer.
Un petit what if qui concerne Orlando aussi, parce que pendant qu'on y est, hein, le fait, l'arrivée non concluante de Tim Duncan à
Ah, Tim
Orlando,
Duncan avec.
Doc Rivers qui fait capoter l'affaire. Je pense que ça change plein de trucs sur la dynastie des Spurs, évidemment, hein. Et puis sur le palmarès du Magic aussi, parce que je pense que si tu ajoutes Tim Duncan à Orlando, ou que tu mettes Tim Duncan, de toute façon, je pense que ça changeait la trajectoire de l'équipe. Mais c'était tout ça s'est passé à l'été 2000, donc ça aurait enlevé ça aurait enlevé quelques titres à San Antonio, je pense.
Et moi j'en place deux, la blessure de Grant Hill à la cheville, qui
Ouais.
rejoint un petit peu ton
Ouais.
truc sur Orlando, sur sa place all-time. Je pense qu'on a un peu oublié à quel point il était doué. Et le match, l'arbitrage durant la série Kings Lakers,
Ouais.
je pense, aurait changé pas mal de choses aussi.
Ouais.
Allez, on finit par le quiz, vous êtes prêts?
Allez.
Attention, c'est chaud, c'est Michael qui nous a envoyé un quiz. On le remercie encore une fois chaleureusement pour ce quiz. Cette semaine, attention, thème les étrangers en NBA avec une série de questions pour Antoine, une série de questions pour Shai. Ça fait un petit
On a deux
parallèle.
séries de questions différentes.
Je le
On
place,
aura
mais
des Allemands.
voilà, c'est plus large. On a fait un podcast avec Pierre Armand pour parler justement des étrangers qui a le plus marqué la NBA à notre sens dans le hoop culture. Voilà, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à ça si vous ne l'avez pas fait. Alors Antoine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça commence avec toi?
Vas-y.
Vas-y, c'est parti. Donc, question 1 pour Antoine. Combien de joueurs non américains ont reçu le MVP de saison régulière?
Non américain, c'est non Amérique du Nord ou non États-Unis?
C'est
Relou?
non États-Unis. Non, oui,
Ok.
non États-Unis. Très bonne
Alors,
question.
Steve Nash, Dirk Nowitzki 2, Jokic 3, Yanis 4, Embiid, s'il compte dedans, ça fait 5. Du coup, je vais partir sur 5. Je crois que j'ai oublié personne. J'espère que j'ai oublié personne. Je vais dire 5.
Chai, tu veux
J'ai oublié
commenter?
quelqu'un?
À tout hasard.
Après, c'est traître parce qu'il a joué avec eux, mais est-ce qu'il n'y a pas Hakim aussi? Hakim Olajuwon, il
Absolument.
compte? Oh
Ah bah oui,
non.
et Nigérian,
Mais il
bah
joue
si.
avec Team USA.
Et Nigérian, mon pote, qu'est-ce que c'est?
Bon,
C'est pas l'arnaque
j'ai
et
la
Michael qui a envoyé
réponse.
la question.
Il est aussi nigérian que toi,
Réponse.
Antoine.
Bah c'est comme pour
Bah
Joel
oui,
Embiid.
mais. Ouais, mais Embiid,
Il
il n'a
a
pas
nature.
encore joué avec Team USA. Tu vois
Mais
ce que je veux dire?
c'est traître.
Au
Il a joué
moment où
en
il est
96 avec Team USA,
au moment où
Hakim.
il est élu MVP, Hakim,
Il
il
n'était
est
pas Team USA.
oh, mais est-ce qu'il est considéré comme international ou comme américain? Est-ce qu'on dit c'est le premier MVP international? Moi, je sais pas, je suivais pas
Oui.
la NBA à l'époque. Ah ouais, il est on dit c'est le
Bah,
premier.
je pense, ouais, il était vraiment. Moi, je ne savais même pas qu'il avait la nationalité avant de jouer effectivement pour Team USA, quoi.
Ok, bon, je m'incline, je le
On le
savais
laisse, on le
alors du
laisse.
coup.
Ok. Allez, on verra au niveau du décompte. Question pour Shai. Combien de joueurs non américains ont reçu le MVP des finales?
Le MVP des finales. Alors, Dirk Nowitzki 1, Yanis 2, Jokic 3 et Tony Parker 4.
Bah, du coup, il y en a
Et
un.
est-ce que Hakim.
Apparemment.
Bah oui, bah du coup Hakim 5, 5.
Ben écoute. Hakim 5, et effectivement, je vais te valider le truc, Antoine, parce que là, il ne l'a pas noté dans les vainqueurs du MVP des finales. Michael, qui avait compté Hakim pour les MVP de saison régulière, n'a pas compté Hakim pour
Ouais,
les MVP des finales. Donc tu remportes ton point, Antoine, pour la question
voilà.
précédente.
Faut aller, faut grind,
Bon,
c'est ça, on quoi.
bien joué, Shai. Allez, Antoine, deuxième question. Combien de joueurs français ont joué en NBA? 23, 33 ou 43?
Au moins un match alors, ouais, du coup.
Au moins un match. Allez, je vais m'arrêter à 33, mais j'ai un doute avec 43. 33, je veux dire.
Réponse 43, je vous avoue que je suis pas
Ah,
allé
mince.
vérifier,
Ouais, mince.
mais bon,
Ouais, j'ai
j'aurais pas
hésité,
imaginé, je
hésité.
pensais pas que ça faisait autant malgré tout, c'est assez fou.
Ah, et tu sais, des saisons, il y avait 12-13 mecs.
Oui,
Ouais, ok,
absolument.
43, ouais.
Shai, après la France, quel est le pays européen ayant eu le plus de joueurs en NBA?
Européen. Est-ce que. Parce que du coup, il y a les pays entre l'ex-Yougoslavie et tout ça, est-ce que ça.
C'est ça le dilemme.
Parce que sinon, je pense que l'ex-Yougoslavie, en réunissant tout, mais donc ce serait un pays actuel, enfin, qui existe en ce moment.
Là, il donne un pays actuel, effectivement, mais c'est vrai que la
Ok.
question est pertinente.
Ok. Bah, du coup, je dirais la Serbie.
Alors, c'est la Serbie, effectivement, avec 30 joueurs, mais c'est vrai que du coup, je ne sais pas comment ont été comptabilisés les joueurs de l'époque yougoslave, s'ils ont été répartis par leur origine, parce que derrière, ça donne 22 pour la Croatie, derrière 20 pour l'Espagne et 19 pour l'Allemagne.
Ouais.
C'est marrant, je pensais que l'Espagne avait plus que ça. Mais...
Ouais, non, c'est que pour nous taper avec la sélection
ouais, c'est eux
qui
qui
sont
sont
premiers.
relous.
Allez, Antoine, sur les 10 dernières drafts de 2014 à 2023, il y a eu. Alors, il y
Ouais.
en a eu une avec 5 joueurs non américains dans le top 7. Alors, quelle est la draft sur les 10 dernières années, la seule draft durant
Ouh.
laquelle il n'y a pas eu de joueurs non américains dans le top 7?
Pas eu de joueurs non américains dans le top 7? C'est ça que tu veux dire?
Parce qu'au début, tu as dit il y en a une où il y a eu
Oui,
5
pardon,
joueurs.
pardon. Où il n'y a pas eu, il n'y avait pas de joueurs américains dans le top 7, pardon.
Il y a eu une draft où il n'y a pas de joueurs américains dans le top 7.
Ouais.
Ouais, enfin, c'est pas de joueurs des États-Unis, du coup. Ça doit être ça le truc d'avoir des Canadiens.
Sachant qu'il y en a un qui est. Il y en a un, franchement, j'aurais pas deviné, quoi.
Ah, je crois que je vois ce que tu
C'est
veux.
un peu traître.
Pas de joueurs américains dans le top 7. Bah, attends, donnez-moi 2 secondes. Je me souviens déjà plus de.
Si t'as pas la date, mais
Ah,
peut-être surtout le
2015,
joueur.
2015, 2015.
2015?
Je... Non, parce qu'il a
2014.
dit. Oh putain. Bah
Ah,
oui, Ah, Wiggins! Ah,
non,
je
mais...
me suis
Non,
gouré d'années!
Wiggins, c'est
Même pas.
2013, mais c'est celle avec 4, et du coup, vu qu'il est
Ouais. Mais
dominicain...
Wiggins, c'est 2014, les gars. Wiggins, il est drafté en 2014.
Ah ouais, bah alors du
Bah
coup...
oui, Wiggins, c'est
Attention.
premier choix 2014. Jabari Parker est 2. Comment Jabari Parker 2 et pas américain?
Ah non, non, mais là, c'est pas ça,
T'énerve pas,
c'est... T'as
Antoine,
raison.
t'énerve pas.
Il y a des
On va pas
erreurs
se
dans ce
taper...
quiz, Mickaël. Troisième, c'est Embiid. Non, mais
Oui, c'est
il y a
2013,
Randle dans
Wiggins,
le
t'as
top
raison.
7.
Ouais.
Non,
Alors
Wiggins,
attendez, attendez.
2014. C'est
Est-ce que, attends,
2013 avec Anthony
celle avec
Davis.
4, c'est laquelle?
C'est
4,
celle
c'est
avec 4.
2015.
La réponse est
4, c'est
celle avec 4,
2015. Bah, c'est
effectivement.
la bonne,
Mais,
c'est
donc c'est
2015.
la bonne.
J'ai
Bon,
vu.
bonne réponse à nouveau,
Voilà,
Mickaël.
on
Attention,
me
il faut être
trompe
plus précis dans les
42 points là
questions.
aujourd'hui.
C'est validé,
42 points.
effectivement. Avec Towns, Porzingis,
Ouais.
Moutier, Ezonia. Et donc
Ouais.
celui qui était un peu traître, c'est Jalil Okafor, qui est
Ouais.
nigérian-américain. Moi,
Mmh.
je n'étais pas sûr qu'il avait la double nationalité, donc.
Ouais.
Tranquillo,
Il est
Antoine,
chaud,
on
il
est
est chaud.
samedi. Attention, croisez pas Antoine sur le playground cet après-midi, parce que ça va. Faut pas lui demander un marché. Hein. Allez, question 3 pour Shai. Cette saison a établi un nouveau record de joueurs étrangers en NBA, mais combien? 105, 125 ou 145?
Taper au milieu, 125.
Bonne réponse, 125 au pif,
Ça
avec
passe.
notamment 26 Canadiens.
Ah, les Canadiens sont numéro
Ils sont
1, ça.
partout.
Allez,
Ils sont
question
partout.
4. Ils sont partout. Question 4 pour Antoine. Sur les 30 franchises NBA actuelles, combien ont un meilleur scoreur de leur histoire non américain?
Ouh, ça, c'est une question vraiment difficile, ça.
Elle est cool, celle-là.
Ouais, c'est une belle
C'est
question,
jouable.
c'est une très belle
C'est jouable.
question. Je dirais Dallas.
Bonne réponse.
Est-ce que j'ai le droit de regarder la liste des franchises? Sans regarder, je regarde juste la liste des franchises.
Oui,
Allez, je regarde
accordé.
juste je regarde juste la liste des franchises. Pas Boston. Ah putain, Milwaukee, merde. Oh, elle est Milwaukee, je
Bonne
tente.
réponse.
Ok. Allez, c'est que les deux. Attends, je vérifie. New York, non. Cleveland, non. Orlando, non. Indiana, non. Miami, non. Philly, non. Ah, oui, Philly, non, pardon. Chicago, Atlanta, Brooklyn. Il y a des... Non, Toronto, non. Ah, mais là, je m'y perds. En fait, je lis en même temps, je réfléchis, ça marche pas. Je sais pas faire deux choses à la fois.
Allez, tu peux trouver le troisième.
Mais 4, il compte comme République dominicaine?
C'est le meilleur marqueur 4 des
Je
Wolves.
sais pas si c'est le meilleur marqueur. Ok, laisse oublier. Ah, bah attends. Ok, si Clippers, New Orleans. J'ai un trou. Suis nul, hein.
Tu
C'est
c'est un joueur
Memphis.
que tu as déjà cité.
J'ai cité.
Oui.
Ah
Non,
bah,
une autre question.
Hakeem Olajuwon à Houston.
Bonne réponse,
Ouais,
elle est
là, j'ai
validée.
trois. Ouais, tu m'as aidé un peu quand même, celle-là. Je ne peux
Non, parce
plus me
que
plaindre des questions parce qu'on m'a aidé pour celle-là.
j'avais peur que tu viennes frapper à ma porte.
Ah, mais
J'avais
c'est vrai que
beaucoup.
pour moi, dans ma tête, ça ne marchait toujours pas, quoi. C'est américain, bordel.
Question pour Shai. Quels sont les trois non-américains dans le top 12 des joueurs avec le plus de triple-double?
Top 12?
Ouais.
Y a un piège ou? Parce que sinon, il y a Jokic, Doncic et Sabonis.
Bonne réponse. Je pense que Mickaël te préfère à Antoine. Il pose des
Hein,
questions plus
parce
tactiques.
que. Merci, merci Mika, hein, merci.
Sans qu'il y ait du favoritisme. Question 5 pour Antoine. Peux-tu citer 5 des 6 joueurs non-américains à avoir gagné le DP, le DPOY?
Rudy Gobert, Yanis Antetokounmpo, Hakeem Olajuwon. Du coup, j'ai mis Hakeem Olajuwon dedans.
Rageux de ouf.
J'en ai trois. J'en ai trois.
Dark
J'en ai
Email se
trois.
lève même le samedi matin, méfiez-vous.
J'en ai trois, mais je vais avoir du mal à avoir les deux
Non, tu
derniers,
vas
je pense.
trouver. J'ai foi en toi.
Marc Gasol, 4.
Bonne réponse.
Ah, putain,
T'en fous un dernier.
je vais choke sur le dernier. Dipoy.
T'as dit qui là déjà?
J'ai dit Gobert,
Ouais.
Gasol, Olajuwon et Yanis.
Ah ouais, c'est bon, j'en ai un autre.
Ouais, ben moi je vais être nul. Un Européen, Kirilenko, il l'a jamais eu. Ah, je suis en mode Européen, mais c'est pas forcément un Européen. Ah, je vais être nul. Au bout d'un moment, je mérite pas le point. On m'a aidé sur l'autre. Attends. Ah, je suis mauvais. Je suis
Il y en a un
mauvais.
qui est recordman.
Je suis mauvais. Qui est recordman? Du
DPOY,
nombre
ouais.
de. Mais je suis tellement mauvais alors. Vous me dites qu'il est recordman.
C'est des jeux.
Il
C'est
compte.
non américain, d'accord, c'est pas européen.
Ouais, non américain.
Ouais, non américain, mais je vois pas un Canadien. Un
Non.
Canadien qui recordman. Mais.
Smash, tu veux dire?
Un mec qui a beaucoup de prénoms.
Ouais, je l'ai pas. Je le mérite pas. Vas-y, je le mérite pas. C'était qui?
Ah, dommage. Dikembe Mutombo.
Dikembe. Oh, je suis nul. Oh, je suis
Et le
mauvais.
dernier,
Il
il y a un
manquait
Français.
Joachim Noah aussi. Ouais.
Joachim
Ah oui,
Noah,
Joachim Noah,
absolument.
ouais. Oh, j'aurais pu avoir Joachim Noah quand même. Oh, je suis mauvais, je mérite pas le point. Je suis nul, je suis nul. Nul. Nul, nul, nul.
Shai, dernière question pour toi. Peux-tu citer 4 des 5 joueurs non américains à avoir gagné le trophée de meilleur sixième homme de l'année?
Celui-là, il est plus dur. J'ai eu le plus facile des deux, là. Ouais.
Alors, 4 des 5 joueurs.
Ouais.
Ginobili.
Oui.
Kukoc.
Oui.
Ça fait 2 sur 4. Hein. Si, Barbosa.
Bien.
Oh,
Ça, c'est
il
propre.
m'en faut un. Il
Tu
m'en
mérites
faut
la
un.
victoire. Il m'en faut un autre non-américain. Clarkson, il compte?
Oui, bonne rêve. Bien
Hein?
joué.
Il l'a gagné?
Je pensais
Il
pas.
l'a
Ouais,
gagné?
il a
Jordan
gagné.
Clarkson? Ah
Ouais.
ouais? Je sais pas. Ah, il est
Si vous
philippin,
voulez, donc,
enfin,
attends, il y en a un cinquième.
trouver le cinquième.
Il est trouvable le cinquième.
Il est trouvable, mais c'est beau. C'est beau de le
Mais t'es
trouver,
fort
mais
en même temps, hein,
c'est pas la même
franchement.
époque.
Pas la même époque, donc c'est plus
Que, enfin,
vieux.
que, ouais.
Non américain.
Enfin, ouais.
Européen?
Ouais.
Ah putain. Serbe? Espagnol?
Non.
Schrempf?
Bonne réponse. Putain, Shai, il est fort
Ouais,
en
t'as
quiz.
gagné.
Yes! Il
Impressionnant.
est grave fort en quiz.
T'as mérité largement la victoire.
Il y avait une dernière question en cas de tie-breaker, mais je ne sais pas si
Allez.
est-ce que je la pose pour le fun et vous essayez de
Allez, pour
répondre
le
tous les
plaisir.
deux?
On fait
Ok.
en
Ouais,
collaboration.
elle est cool. Alors, depuis la saison 2004-2005, l'Euroleague désigne un MVP de saison régulière. Donné à tour de rôle un MVP d'Euroleague européen ayant joué en NBA. Il y a 11 réponses.
C'est là qu'on va être
Fallait
démasqué,
pas
là,
du
c'est bon.
tout. Ouais, fallait pas du tout poser cette question, vérité. Qui a joué en NBA, hein? On
Ouais,
a
des mecs qui ont
deux
été
colos.
heureux. De Colo, bien.
Il y en a combien?
Il y en a 11.
11. Ok, Doncic.
Oui.
Vezenkov.
Oui.
Micic.
Oui.
Mirotic.
Oui. Oui, vous êtes bon.
Ouais, mais maintenant, on va être à court
On
de.
a dit tous les hits, c'est bon, c'est fini.
Si, il y a Kirilenko.
Absolument. Vous êtes très bon, vous êtes à 6.
Ouais, j'ai plus d'idées après, par contre, mais.
J'en tente une, je suis pas sûr. Le tchèque, là, le pivot tchèque, comment il s'appelle, putain?
Ah ouais, Vezeli.
Vezeli.
Absolument.
Ouais. Merde, j'aurais dû le gars. J'aurais peut-être pensé à lui. Et c'est lié, et maintenant, bon courage.
Il y a deux Espagnols.
Ah,
Ouais.
Sergio Rodriguez?
Oui.
Rubio?
Non.
Non.
Ah
Alors,
ouais?
Rudy Fernandez?
Non.
Bon, c'est tous des enfoirés. Victor Claver, c'est le mec qui l'a fait.
Victor Claver, craquage.
Le mec qui pète un plomb
Il
espagnol.
y a
Non, je
Navarro,
sais pas,
non?
alors je... Non.
Navarro,
Ouais.
absolument.
Ah, Navarro. Ah oui, il a joué NBA. Oh,
Il nous en reste combien là?
Il en manque deux.
Il en manque deux, ils sont trouvables ou on est trop mauvais pour.
Depuis combien de temps? C'est sur les combien de dernières années, pardon?
C'est depuis 2004.
2004, t'as dit, je crois.
Il y en a un qui est l'un des plus grands joueurs de tous les temps.
Jessica et Vicious, il est, mais ça me
Non, il a
semble pas, c'est avant
un des plus grands
2004.
joueurs de tous les temps en Europe.
Notamment parmi les meilleurs scoreurs all-time.
Spanoulis. Ah oui,
Spanoulis.
Sanoulis, ouais, bien vu.
Et il en reste un.
Et un indice, juste un indice. Je
Non.
suis nul, et c'est qui? Ça montre à quel point je suis nul, ça m'énerve.
Bah, je l'ai pas, non, je l'ai pas hein, non plus.
Nemanja Bjelica.
Ah ouais, je l'aurais pas eu.
Ah ouais.
C'était plus chaud. Mais par contre, vous avez trouvé, franchement, belle série. Bravo à vous pour le quiz. Vous
Oh,
voyez,
merci à Mickaël.
vous êtes sous-estimé sur ce quiz. Merci, Mickaël. Merci à tous d'avoir posé des questions. J'en profite juste, on va refermer CQFR, mais sachez que on travaille depuis de longs mois maintenant à quelque chose de spécial du côté de Basket Session. On ne vous en dit pas plus, mais voilà,
Ça
soyez à
arrive.
l'écoute. Voilà.
Ça arrive.
Plutôt, stay tuned, comme on dit.
Winter is coming. Mec fait trop de teasing. Il va trop loin dans le teasing. Mais t'as raison, Théo, t'as raison de le noter. Peut-être que vous allez tous prendre ou reprendre ou continuer des habitudes sur basketsession.com. Effectivement, on prépare un truc assez épicé, assez intéressant. J'espère que ça vous plaira et je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, dans les prochains jours, on n'a pas encore une date précise, mais n'hésitez pas. De toute façon, allez-y tous les jours en attendant. Vous voyez, si vous faites ça tous les jours, vous y allez un petit peu. Il y a des articles à lire, des fois il y a des analyses, ça peut aller au-delà. On peut aller plus loin que sur les vidéos, sur certains articles. Et bientôt, très bientôt, on va envoyer du lourd à nouveau promis. Et bah écoutez, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end de Pâques et on se retrouve lundi, parce que ce sera le lundi de Pâques, on sera là, on sera présent pour un nouveau CQFR. Bon week-end à tous et n'oubliez pas les rendez-vous du week-end. Hoop Culture, Moop Deep. Samedi le Moop Deep, dimanche Hoop Culture. Voilà, et on se retrouve lundi. Ciao à tous!
Ciao, bon week-end.